Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 2 décembre, les vaccins, c'est parti. Le Royaume-Uni procédera aux premières injections dès la semaine prochaine. Premier pays occidental à avoir approuvé le vaccin de Pfizer. Boris Johnson exulte, d'autant que ça coïncide avec le déconfinement aujourd'hui en Angleterre. Les vacances à la montagne, c'était oui, mais sans le ski. Maintenant, c'est aussi sans partir à l'étranger. Jean Castex brandit des contrôles aux frontières et un isolement de 7 jours. Et c'est comme le ski de boss, ça commence à secouer. Dans RTL Midi aussi, si le suspense du Brexit, un accord est toujours incertain à un mois de l'échéance. Les pêcheurs français qui vont voir leur zone largement réduite s'inquiètent. Nous serons en ligne avec le vice-président du comité régional des Hauts-de-France. La reprise du procès des attentats de janvier 2015, mais le principal accusé ne semble pas tout à fait remis de son Covid. Et puis y aura-t-il une Coupe de France de football 2021 ? Le Premier ministre est pessimiste. La fédération fait au mieux pour sauver la compétition. La météo, bonjour Peggy.
Bonjour Christelle.
C'est une journée sans lumière.
Exactement, c'est vrai que ça va être compliqué aujourd'hui. Le ciel est bien nuageux sur l'ensemble du pays avec de rares averses vers les Ardennes, la pointe bretonne, le Cotentin, également entre les Pyrénées et le massif central où il y a quelques flocons à basse altitude. De la neige également entre les Alpes et la montagne Corse. En fait, il n'y a que sur le pourtour méditerranéen que le soleil va briller cet après-midi au prix d'un vent fort. Les températures, elles sont encore fraîches, de 3 à Strasbourg à 12 degrés à Montpellier, 6 à Lille, 8 à Paris et 10 à Bordeaux.
La question du jour sur RTL.fr. Emmanuel Macron est-il trop autoritaire? Il y a 48% de oui, 44% de non. Nos amis auditeurs sont très partagés. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle. Effectivement, le chef de l'État a parlé de mesures restrictives et dissuasives pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger à Noël. Jusqu'où s'arrêtera-t-on? Donc vous pourrez, entre 13h et 14h30, prendre votre téléphone et de dire ce que vous en pensez. La France est championne des dépenses publiques sociales. Cela aussi, c'est un sujet récurrent. Qu'est-ce que vous en pensez? Des cafetiers et restaurateurs en appellent au Conseil d'État. Ils invoquent l'inégalité de traitement avec les restaurants collectifs, les cantines, les restos routiers qui, eux, peuvent rester ouverts. Et puis, dernière question, faut-il ouvrir l'adoption d'enfants aux couples non mariés? C'est une proposition de loi de La République En Marche.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Messieurs les Anglais, vaccinez les premiers. Le Royaume-Uni est le premier pays à approuver l'utilisation massive du vaccin de Pfizer-BioNTech. Il sera déployé dès la semaine prochaine. C'est une nouvelle fantastique, a tweeté le Premier ministre Boris Johnson. Marie Billon, pourquoi nos voisins sont-ils aussi rapides ?
Déjà parce que c'était le but affiché du gouvernement de Boris Johnson. Il voulait que le Royaume-Uni soit le premier pays occidental à approuver un vaccin, un petit coup de pub donc. Et en même temps, cette ambition a été rendue possible par le Brexit. Les autorités britanniques ont étudié le vaccin de leur côté sans dépendre de l'Agence européenne de la médecine qui devra se prononcer pour tous les 27. Il y a aussi une méfiance un petit peu moins forte face au vaccin au Royaume-Uni qu'en France, avec un effort pédagogique de la part des scientifiques, des autorités sanitaires et du gouvernement pour expliquer le développement du vaccin et dans une certaine mesure le processus d'approbation. C'est important parce que ça veut dire qu'être les premiers n'équivaut pas forcément à être des cobayes mais plutôt à être des précurseurs.
Bon, et qui sera vacciné en premier ?
Alors les plus vulnérables, les personnes dans les maisons de retraite et les employés de ces institutions. Ensuite, ce sera les personnes de plus de 80 ans et les travailleurs de la santé. Et puis ceux entre 75 et 80 ans et ainsi de suite. Pour l'instant, les vaccins seront distribués dans les hôpitaux dès la semaine prochaine. 50 sont déjà préparés. Mais d'ici au début de l'année, le vaccin devrait être disponible plus largement dans le pays.
Marie Billon à Londres pour RTL. Et cette annonce coïncide avec la levée du confinement en Angleterre. Les magasins rouvrent partout et les pubs dans la moitié du pays. Quant aux tests en France, les autorités sanitaires envisagent de procéder à des campagnes massives dans les métropoles de 3 régions dès le mois de décembre. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre. Une campagne sur la base du volontariat qui doit permettre, selon lui, de mieux connaître les quartiers, les populations et les lieux de vie les plus concernés par la maladie pour en tirer des enseignements préventifs. Et le gouvernement s'en mêle les skis sur les prochaines vacances. Emmanuel Macron veut prendre des mesures dissuasives pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger. Jean Castex a dû précisé la pensée présidentielle ce matin. Il s'agirait de mettre en place une période d'isolement de 7 jours pour ceux qui seraient partis et des contrôles aléatoires aux frontières. Franchement, Marie-Bénédicte Allaire, ça paraît bien compliqué à mettre en place.
Oui, effectivement. En théorie, ça paraît techniquement possible. Dès qu'on rentre dans la pratique, c'est beaucoup moins évident. Pour certains spécialistes, il faudrait une nouvelle loi, difficile d'ici Noël. Mais en admettant même que la loi d'urgence sanitaire en vigueur jusqu'au 16 février le permette, ce serait immédiatement contesté devant le Conseil d'État pour rupture d'égalité notamment. Et comment faire la différence entre ceux qui sont allés skier en Suisse et les amateurs de chocolat, par exemple? L'État n'a pas à vérifier les motifs de ceux qui se rendent à l'étranger. Ce serait s'immiscer dans leur vie privée, souligne un sénateur. Emmanuel Macron fait donc de la politique et un coup de com'. Taxé par ses adversaires de président des riches, le chef de l'État s'en prend là à des Français plutôt fortunés. Il veut aussi montrer aux professionnels de la montagne qu'il les défend. C'est un moyen de pression plus que quelque chose de réalisable, reconnaît d'ailleurs un éminent parlementaire de la majorité.
Oui, au fond, c'est le discours qui doit être dissuasif. Merci Marie-Bénédicte. Quoi qu'il arrive, il y aura des trains à Noël, mais la pandémie va coûter cher à la SNCF, son PDG Jean-Pierre Farandou.
En effet, les tensions économiques restent fortes. Juste avant l'annonce du second confinement, fin octobre de cette année, nous étions déjà à 5 milliards d'euros de pertes de décalage par rapport au chiffre d'affaires attendu. Et on le sait bien, la situation va encore se dégrader avec le confinement numéro 2 et la réduction du trafic pour la fin de l'année. Je le redis, il n'y a pas de pronostic encore sur à quelle hauteur de perte on va terminer. On voit les ordres de grandeur, je ne valide aucun chiffre à ce stade, mais on voit que c'est beaucoup. Voilà, clairement c'est beaucoup et l'impact économique sera rude pour cette année et préoccupant l'année prochaine, parce qu'on voit bien qu'on a aussi un effet de halo sur l'année 2021.
Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui répondait ce matin aux questions des sénateurs. Les restaurateurs, eux, ne verront pas le bout du tunnel au moins avant le 20 janvier et ils lancent un recours devant le Conseil d'État pour inégalité de traitement et mesures disproportionnées, Christophe Ponzio.
Oui, depuis le reconfinement, il y a une rupture d'égalité, selon l'UMI, l'organisation qui porte ces requêtes. Rupture d'égalité entre les cafés et les restaurants fermés et les autres, cantines, restaurants routiers ou d'entreprises, la restauration collective qui reste ouverte. Inacceptable pour Laurent Barthélémy, président de l'UMI Nouvelle-Aquitaine.
On a le même protocole sanitaire que dans tous les restaurants d'entreprise ou les restaurants collectifs qui sont ouverts aujourd'hui et on n'a pas le droit d'ouvrir. Donc, c'est un problème d'égalité, oui, effectivement. Mais pourquoi pas ne pas, c'est ça, réouvrir en fonction aussi des zones géographiques, c'est ce que nous avons de toute façon proposé depuis le début, qui n'est pas entendu.
1 million de restaurateurs sont contraints donc d'attendre, vous le savez, le 20 janvier pour rouvrir. Ce matin, devant le juge du Conseil d'État, le gouvernement a justifié sa décision par une étude américaine qui montre que les contaminations sont plus nombreuses dans les cafés-restaurants qu'ailleurs.
Mais pour nous, ça ne peut pas être entendu. Après, que ça soit ce que le juge, lui, va dire, c'est une chose. Mais pour nous, ce n'est pas entendable. Non. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes montrés du doigt comme étant coupables parce qu'il y a une propagation de la maladie aujourd'hui en France, alors que ce n'est pas chez nous. Il n'y a rien qui nous démontre que ce soit chez nous qu'on soit plus malade que chez les autres.
Cafés et restaurants se disent donc maintenant prêts à rouvrir pour sauver les fêtes. La décision du Conseil d'État en référé est attendue mardi prochain, ce qui veut dire que si la requête est acceptée, la réouverture pourrait intervenir dans une semaine.
Christophe Ponzio, le Conseil d'État qui avait déjà retoqué ces derniers jours la limitation à 30 personnes, pas plus, dans les lieux de culte. Le gouvernement devait revoir sa copie. Ce matin, Jean Castex a proposé d'assouplir la jauge à une personne pour 6 mètres carrés et ce jusqu'au 15 décembre avant donc un nouvel assouplissement. Pendant ce temps, les jeunes, eux, tentent comme ils peuvent d'étudier à distance. On en parle dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Les étudiants, eux, attendent toujours de pouvoir retrouver les amphis de la fac et la seule date évoquée par Emmanuel Macron reste vague, début février. Depuis un mois, il n'y a plus de cours en présentiel. Les jeunes télé-étudient et se sentent souvent désorientés, comme Clara, qui est en fac de médecine à Paris.
On n'a pas de support papier. On reçoit des dizaines et des dizaines de mails par jour avec 1 milliard de liens, 1 milliard de choses qui changent. La vidéo qui a mal été postée, le son qui marche pas. C'est très fatigant en fait. On perd énormément de temps à chercher les informations et c'est très facile de décrocher. Je sais pas si j'arrive à retenir ou pas en fait. Je regarde les vidéos, bon d'accord, je prends des notes, mais après j'ai aucun retour. On n'a pas de suivi avec le prof, on peut pas vraiment poser de questions. Enfin, il y a toujours les mails, mais ça a rien à voir. Je suis en train d'espérer que ça n'ait pas trop de conséquences sur mon apprentissage. Pour l'instant, j'arrive pas du tout à me situer. Je suis un peu perdue. Voilà. Et c'est très angoissant.
Clara, un peu perdue au micro RTL de Valentin Boisset. Le président de Sorbonne Université, Jean Chambaz, juge cette situation intolérable.
C'est pas normal qu'on oublie les étudiants et dans la déclaration du président de la République, il ait oublié les étudiants et qu'il ait dit que les lycées où il y a des élèves par classe serrés rouvriraient au 20 janvier et que pour les universités, ce serait au mieux 15 jours plus tard. Il faut que les étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions. Laissez-nous accueillir les étudiants dès début janvier, d'abord à demi-jauge, puis à effectif plein.
Jean Chambaz avec Marie Guerrier. Comment le chômage partiel va-t-il être pris en charge pour la retraite? Eh bien, on connaît désormais la réponse. Un décret paru au Journal officiel fixe un minimum de 220 heures indemnisées pour valider un trimestre cotisé au régime général. Le Brexit à marée basse. Michel Barnier, le négociateur de l'Union européenne, est toujours à Londres pour tenter de trouver un accord avec Boris Johnson. C'est toujours incertain, dit-il ce matin. Pourtant, il faut que tout soit conclu et validé d'ici au 31 décembre. Et la question de la pêche est essentielle. Bénédicte Tassard, qu'est-ce qui pourrait changer pour les pêcheurs français?
Eh bien, l'interdiction de pêcher dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni, c'est-à-dire dans ce territoire maritime situé entre 19 et 320 km des côtes britanniques. Un secteur très poissonneux. Alors, vous pouvez penser que c'est logique, puisque les Britanniques quittent l'Union européenne. Mais c'est la pêche de 8 pays européens qui est menacée. Un tiers de leurs bateaux se retrouve régulièrement côté britannique. Et si l'accès est fermé, tout le monde va se côtoyer dans les eaux belges ou françaises. Londres a qualifié de risible la dernière proposition de Bruxelles, celle de réduire de 15 à 18% les quotas européens de pêche dans les eaux britanniques. Les 27 ont déjà provisionné 5 milliards d'euros pour indemniser nos pêcheurs. Les Hollandais, eux, sont même prêts à casser une partie de leur flotte pour investir dans des bateaux britanniques et qu'on ne leur parle plus de territorialité. Mais même avec un deal, il y aura des dégâts.
Et nous sommes avec Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches des Hauts-de-France. Bonjour.
Oui, bonjour.
La pêche dans les eaux britanniques représente la moitié du chiffre d'affaires des pêcheurs normands, les deux tiers des bretons. Et pour vous, c'est combien?
Ben pour nous ici, pour tous les pêcheurs en général dans la région des Hauts-de-France, ça représente 75% de notre chiffre d'affaires.
Donc c'est colossal.
Oui, c'est colossal, hein, de toute manière. Hein, je l'ai dit à votre collègue quand je l'ai rencontré, de toute manière c'est colossal. Il y a vraiment une situation qui est alarmante, parce qu'en plus de mettre en péril la situation des entreprises, nous allons mettre en péril aussi la ressource, puisqu'il y aura, si vous voulez, dans un espace maritime réduit, une surexploitation de la ressource halieutique pour le reste de l'Europe.
Et pour vous, il est impossible de compenser en restant uniquement du côté français?
Non, aujourd'hui, parce qu'en plus, on va se retrouver dans un espace, comme je vous le disais à l'instant, dans un espace géographique réduit en termes d'occupation de la mer, avec des pêcheurs belges, des pêcheurs hollandais, toutes les flottilles françaises, à multitude de techniques de pêche, aussi bien qu'au casier, au filet, au chalut, à la seine ou autre. Là, il est impensable de pouvoir cohabiter, parce que là aussi, il y a une cohabitation qui va être difficile, dans un premier temps, entre les pêcheurs franco-français, mais aussi les pêcheurs français et le reste de l'Union européenne. Donc voilà, il y a vraiment là aujourd'hui un enjeu capital à ce que le Royaume-Uni continue et valide le fait que le reste de l'Europe puisse continuer de pêcher dans les eaux anglaises.
D'autant qu'il y a un paradoxe assez incroyable, c'est que les Anglais mangent principalement les poissons que vous, les Français, vous avez pêchés.
Oui, et en plus, les Anglais exportent chez nous, à partir de Boulogne-sur-Mer, leurs espèces de poissons qui sont pêchées par les propres pêcheurs anglais. Quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment un paradoxe compliqué.
Les Britanniques proposent de renégocier chaque année des quotas de pêche par espèce. Pourquoi vous n'y êtes pas favorable?
Nous, aujourd'hui, on est favorable à tout, puisqu'on est. C'est pas nous qui sommes au cœur des négociations. Je pense que là, c'est le cas comme actuellement ça se passait à l'époque, si vous voulez, avec l'Union européenne, chaque année où on discute à partir du 15-20 décembre, la distribution des quotas au niveau de l'Union européenne. Donc chaque année déjà, ça se passe. Là, aujourd'hui, les Anglais veulent de nouveau peut-être négocier d'une autre manière, par espèce, les quotas vis-à-vis de l'Union européenne. Un peu comme le font les Norvégiens, parce qu'il y a des accords de Norvège. Et voilà. Donc, nous, les pêcheurs, on est contre aucune discussion.
Oui, donc ça, c'est une possibilité. C'est une piste.
Bah oui, c'est ce que les Anglais aujourd'hui veulent négocier au mieux, parce qu'ils disent que si le reste des pêcheurs de l'Union européenne sont à 50%, 30%, 40%, 75% de leur temps dans nos eaux, ils pêchent 75% de leurs marchandises dans nos eaux,
ben oui.
Ces poissons nous appartiennent. Mmh. Donc, les poissons ont une queue, ça nage, c'est sûr. Mais voilà. Mais bon, aujourd'hui, on a un contexte quand même assez difficile. Maintenant, je ne sais pas où ça bloque au niveau des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais nous, on fait tout entièrement confiance à M. Barnier, hein, M. Valcourt pour la France, ou même peut-être même pour l'Union européenne, puisqu'il a été à l'époque M. Barnier ministre de la pêche et de la pêche et de l'agriculture sous Nicolas Sarkozy. Donc il connaît très très bien.
Il connaît très bien le dossier, ça c'est sûr.
Demain,
vous allez faire partie de la délégation qui sera reçue par Jean Castex. Qu'est-ce que vous allez lui dire justement?
Ben moi, ce que je vais proposer au Premier ministre, hein, c'est ce que j'ai discuté avec d'autres journalistes aujourd'hui, il y a un avenir encore dans la pêche. Même s'il y a, parce qu'il y a le Brexit, mais il y a des situations catastrophiques comme nous, les filières des Hauts-de-France,
oui.
qui sont depuis 4 ou 5 ans sur un manque de ressources liées à la pêche électrique ou autre. Donc, si demain, il y avait une possibilité, parce que perfuser un secteur d'activité pendant X semaines, pendant X mois, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens.
Mm-hmm.
Ça peut l'être sur quelques semaines, pas pour un mois ou deux maximum. Mais là, combien de temps, s'il y a un no deal, combien de temps cela va durer? Donc on ne peut pas perfuser comme ça éternellement une profession. Oui, peut-être une profession qui va bien. Mais si on prend le cas des filières des Hauts-de-France, moi demain j'alerterai le Premier ministre en disant que libérons un peu l'espace maritime,
qui
va être surexploité par tout type de techniques de pêche et peut-être même le reste des pêcheurs de l'Union européenne. En faisant sortir dignement les professionnels qui ont envie d'arrêter simplement ce métier, et puis de soutenir financièrement, le temps de trouver un nouvel accord avec le Royaume-Uni, ben les entreprises qui ont encore de l'avenir et l'envie de continuer ce métier.
Une petite perfusion temporaire en attendant une solution définitive. Merci beaucoup, merci Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches des Hauts-de-France. Le procès des attentats de Paris vient de reprendre, mais il n'en a peut-être pas fini avec le Covid. On y vient dans un instant.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Après un mois de suspension, le procès des attentats de janvier 2015 a repris ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il avait été suspendu parce que le principal accusé, Ali Riza Polat, avait contracté le Covid. Il a finalement été jugé apte à comparaître. Les plaidoiries ont commencé, Cindy Hubert, mais l'accusé ne semble pas aller très bien.
Oui, la sonnerie vient à peine de retentir dans la cour que déjà l'accusé s'égosille. Emmenez-moi à l'hôpital. Il a pourtant subi toute une série d'examens, biopsies, analyses sanguines, rien n'a été détecté. Le médecin lui a prescrit un anti-vomitif, mais Ali Riza Polat refuse de le prendre. Pas question de servir de cobaye à l'État. Sur le banc des parties civiles, on commence à perdre patience. Le procès aurait dû être terminé depuis près d'un mois. Un rescapé de l'attentat à Charlie Hebdo rit nerveusement, un autre soupir. Un avocat bondit. Ça suffit, vous jouez aux malades imaginaires. Vous prenez cette audience en otage, monsieur Polat. Ce procès historique. Le président calme la salle, les plaidoiries reprennent enfin. Mais l'accusé continue de cracher bruyamment dans une bassine. Je vomis de la bile, j'ai plus rien dans le ventre. Puis c'est une valse de grossièreté. J'en peux plus d'écouter vos salades. Le président menace à nouveau de l'expulser. Il reste encore 3 semaines jusqu'au verdict.
Cindy Hubert en direct du tribunal de Paris. Le fameux article 24 de la loi de sécurité globale sera donc réécrit. Mais pour aplanir les tensions politiques, Emmanuel Macron déjeune en ce moment avec le président du Sénat Gérard Larcher et les chefs des groupes parlementaires de la Haute Assemblée. La Coupe de France de football est-elle morte pour 2021? À cette question, Jean Castex a répondu oui, un oui lapidaire et ambigu. C'est presque cuit, disait ce week-end Noël Le Graët et la Fédération française de football. On essaie de sauver coûte que coûte cette compétition emblématique du sport amateur, Nicolas Georgerot.
Ben oui, parce qu'en l'état actuel, le foot amateur ne pourra reprendre que le 20 janvier. C'est tard, très tard, au regard du calendrier habituel de la Coupe de France, puisque à cette date précise, la Fédération aurait alors à rattraper 5 tours de Coupe mêlant club amateur et club professionnel. Ce serait donc très compliqué de tenir les délais. La Fédération a un objectif. Elle attend un arbitrage très prochainement. Elle souhaiterait une reprise des entraînements pour les amateurs, je dis bien les entraînements, pas les compétitions, le 15 décembre, calendrier qui permettrait alors de jouer des tours de Coupe de France début janvier et d'envisager donc la tenue de la compétition jusqu'à son terme. Discussion intense.
tense depuis quelques jours entre fédération et ministère des Sports. Ministère plutôt d'ailleurs favorable à porter cette idée. Parallèlement, plusieurs pistes à l'étude pour dégager des dates disponibles, notamment suppression des coupes départementales et régionales dans les districts qui ne l'ont pas encore fait et programmation de matchs pendant les vacances scolaires au printemps.
Ce soir, en Ligue des Champions, le PSG n'aura pas droit à l'erreur à Old Trafford face à Manchester United. Sinon, les Parisiens dépendront des résultats de leurs autres adversaires dans cette phase de groupe. Rendez-vous dans RTL Foot à 20h45. Et puis, un Schumacher en Formule 1. Mick, le fils du septuple champion du monde, Michael Schumacher, fera ses débuts en F1 l'an prochain dans l'écurie américaine Haas. Il vient de signer un contrat de plusieurs années. Le pilote de 21 ans sera associé à un autre novice, un jeune russe, et tous deux remplaceront Magnussen et le français Romain Grosjean. Ce dernier a quitté l'hôpital militaire du Bahreïn ce matin où il était soigné pour ses brûlures aux mains après son spectaculaire accident dimanche dernier. Pascal Pro, au 32-10, de quoi avez-vous envie de parler avec les auditeurs?
Nous allons parler d'Emmanuel Macron qui s'est acheté une polémique pour pas grand-chose puisqu'effectivement, combien de Français skient à l'étranger à Noël? Combien? 5 000? 10 000? C'est vraiment pas grand monde. Simplement, c'est une petite musique. Une petite musique du pouvoir autoritaire, une petite musique liberticide qu'on entend parfois. Donc on va poser la question aux auditeurs. Est-ce qu'ils partagent cet avis? Est-ce que Emmanuel Macron est trop autoritaire? On pourra parler des dépenses publiques également, sociales. En France, nous sommes les champions. Des restaurateurs, bien évidemment, qui souhaitent qu'on rouvre le plus vite possible. C'est pas avant le 20 janvier. Hier, on était à moins de 8 000 cas. On va être sans doute très rapidement en dessous de 5 000 cas, qui était la jauge d'Emmanuel Macron pour rouvrir. Et a priori, les restaurants, ce n'est que le 20 janvier, donc dans 50 jours. Donc ça aussi, ça pourra
et
faire...
Entre-temps, il y aura eu les vacances de Noël et c'est ça qui les inquiète, je pense.
Bien sûr, autorités. Et les stations de ski, vous avez parfaitement raison. Donc voici tous ces sujets que nous allons aborder tout à l'heure.
Tout de suite. La météo, Peggy Broch, les températures continuent de baisser.
Eh oui, Christelle, on est. C'est vrai que vous aimez le froid, Pascal. Eh bien, il y a ce qu'il faut.
Moi, pas trop.
On est souvent sous les 10 degrés. Je suis désolée. Je ne vais pas contenter. Ah, ben, je vais vous laisser peut-être.
Non.
que s'il met un pull de Noël.
Ah, oui, c'est vrai. Vous avez dit oui hier. Alors, voilà. On attend le pull de Noël, Pascal. Alors, 3 degrés cet après-midi à Nancy et Langres, 4 à Grenoble, 6 à Toulouse, 7 à Reims, 8 à Paris et Tours, 9 à Nantes, 11 à Brest, comme à Biarritz, Marseille, Nîmes et 13 à Ajaccio. Alors côté ciel, c'est simple, c'est gris. Gris sur l'ensemble du pays avec très peu de pluie. On a 2-3 gouttes entre la Bretagne et le Cotentin, vers les Ardennes et aussi entre les Pyrénées et le Massif central, avec quelques flocons en montagne dès 700 mètres. Et puis il neige également entre les Alpes et la montagne Corse vers 1000 mètres et sur le reste du pourtour méditerranéen. Là, c'est ensoleillé et seulement là, mais le ressenti est frais car Mistral et Tramontagne soufflent assez fort.
Ça fait pas beaucoup de soleil quand même.
Non, bon. C'est vrai.
Et demain, vous continuez d'explorer la grisaille.
On va faire ça.
C'est sympa.
Oui. Ben oui, j'ai pas mieux à vous proposer malheureusement parce qu'en plus on a une nouvelle perturbation qui va arriver par l'ouest. Ça va donner pas mal de pluie, beaucoup de vent également. D'abord sur un large quart nord-ouest et tout ça va se renforcer au fil des heures et gagner l'ensemble du pays. Alors ailleurs, en attendant que la perturbation arrive, les pluies seront faibles, le ciel sera gris. Quelques régions quand même profiteront d'un temps sec avec plus ou moins d'éclaircies, l'extrême sud, les frontières de l'Est et la Corse avant l'arrivée des pluies en soirée et dans la nuit. Côté température, peu de changements.
Merci Peggy.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le chef de l'État est-il trop autoritaire? C'est notre question du jour. Xavier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux éditeurs.
Oui ou non?
Oui, par manque d'autorité naturelle et de compétences, on devient autoritaire.
Eh bien, nous pourrons développer cette idée dans quelques secondes. Christelle Robière, le rappel des titres.
Un nouvel appel à manifester contre la loi sécurité globale samedi prochain. Un collectif veut obtenir le retrait de 3 articles de la loi. C'est fantastique, s'enthousiasme ce matin Boris Johnson. Le Royaume-Uni sera le premier pays occidental à vacciner dès la semaine prochaine en utilisant le vaccin de l'américain Pfizer et de l'allemand BioNTech. L'Angleterre, qui par ailleurs se déconfine, les pubs rouvrent dans la moitié du pays ainsi que la totalité des commerces. En France, la pandémie pourrait coûter cher à la SNCF, au moins 5 milliards d'euros, d'après les estimations de son PDG Jean-Pierre Farandou. Quant aux vacances de Noël, les Français sont incités à ne pas partir skier à l'étranger. Le gouvernement envisage une période d'isolement de 7 jours pour ceux qui rentreraient du ski et des contrôles aléatoires. À l'instant, la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale dénonce un pilotage défaillant de la crise du Covid par le gouvernement. C'est ce que vient de déclarer le président du groupe LR, Damien Abad, à l'issue de 6 mois d'audition. Gérald Darmanin Darmanin aurait dû être entendu dans l'enquête pour le viol qui le vise. Ses avocats ont demandé un report, une audition en qualité de simple témoin assisté, ce qui signifie qu'aucune mise en examen n'est envisagée.
Les auditeurs ont la parole.